Podcast de l'Avent, une lecture balsacienne pour patienter jusqu'à Noël. Le bal de Sceaux, par Honoré de Balzac, Paris, décembre 1829. À Henri de Balzac, son frère Honoré. Extrait 13 sur 24. Cette masse d'observations ne coûta guère à Émilie qu'un moment d'attention, pendant lequel cet homme privilégié, soumis à une analyse sévère, devint l'objet d'une secrète admiration. Elle ne se dit pas « Il faut qu'il soit pair de France !» mais « Oh, s'il est noble, il doit l'être !» Sans achever sa pensée, elle se leva tout à coup, alla suivie de son frère, le lieutenant-général, vers cette colonne en paraissant regarder les joyeux quadrilles. Mais par un artifice d'optique familier aux femmes, elle ne perdait pas un seul des mouvements du jeune homme de qui elle s'approcha. L'inconnu s'éloigna poliment pour céder la place aux deux survenants et s'appuya sur une autre colonne. Émilie, aussi piquée de la politesse de l'étranger qu'elle l'eût été d'une impertinence, se mit à causer avec son frère en élevant la voix beaucoup plus que le bon ton ne le voulait. Elle prit des airs de tête, multiplia ses gestes et rit sans trop en avoir sujet, moins pour amuser son frère que pour attirer l'attention de l'imperturbable inconnu. Aucun de ces petits artifices ne réussit. Mademoiselle de Fontaine suivit alors la direction que prenaient les regards du jeune homme et aperçut la cause de cette insouciance. Au milieu du quadrille qui se trouvait devant elle, dansait une jeune personne pâle et semblable à ces déités écossaises que Girodet a placées dans son immense composition des guerriers français reçus par Ossian. Émilie crut reconnaître en elle une illustre lady qui était venue habiter depuis peu de temps une campagne voisine. Elle avait pour cavalier un jeune homme de 15 ans, aux mains rouges, en pantalon de nankin, en habit bleu, en souliers blancs, qui eût prouvé que son amour pour la danse ne la rendait pas difficile sur le choix de ses partners. Ses mouvements ne se ressentaient pas de son apparente faiblesse. Mais une rougeur légère colorait déjà ses joues blanches et son teint commençait à s'animer. Mademoiselle de Fontaine s'approcha du quadrille pour pouvoir examiner l'étrangère au moment où elle reviendrait à sa place, pendant que les vis-à-vis répéteraient la figure qu'elle exécutait. Mais l'inconnu s'avança, se pencha vers la jolie danseuse et la curieuse Émilie put entendre distinctement ses paroles, quoique prononcées d'une voix à la fois impérieuse et douce. « Clara, mon enfant, ne dansez plus !» Clara fit une petite moue boudeuse, inclina la tête en signe d'obéissance et finit par sourire. Après la contredanse, le jeune homme eut les précautions d'un amant en mettant sur les épaules de la jeune fille un châle de cachemire et la fit asseoir de manière à ce qu'il fût à l'abri du vent. Puis bientôt, Mademoiselle de Fontaine, qui les vit se lever et se promener autour de l'enceinte comme des gens disposés à partir, trouva le moyen de les suivre sous prétexte d'admirer les points de vue du jardin. Son frère se prêta avec une malicieuse bonhomie aux caprices de cette marche assez vagabonde. Émilie aperçut alors ce beau couple montant dans un élégant tulbury que gardait un domestique à cheval et en livrée. Au moment où le jeune homme du haut de son siège mettait ses guides égales, elle obtint d'abord de lui un de ces regards que l'on jette sans but sur les grandes foules. Puis elle eut la faible satisfaction de lui voir retourner la tête à deux reprises différentes et la jeune inconnue l'imita. Était-ce jalousie ? Je présume que tu as maintenant assez observé le jardin, lui dit son frère. Nous pouvons retourner à la danse.
Je le veux bien, répondit-elle. Croyez-vous que ce soit une parente de Lady Dudley ?
Lady Dudley peut avoir chez elle un parent, reprit le baron de Fontaine.
Mais une jeune parente ? Non.